Backseat, vous le savez, c'est une émission dans laquelle il y a des chroniques extraordinaires. Et je crois que j'ai une chronique que j'ai envie de vous présenter. En cette saison, suis-moi, viens donc avec moi. On se retrouve avec l'immense Vincent Manilev pour le PowerPoint de Vincent.
Bonjour, bonjour Jean, tu vas bien? Je crois que t'es sur un timing serré aujourd'hui.
Je suis sur un timing un peu serré.
Vous avez besoin de ça, messieurs.
Ah oui, j'ai besoin de ça. Merci,
merci
beaucoup,
Safia.
Merci.
Vincent, est-ce que tu as passé un bon été?
Un bon été, oui, jusqu'à ce que la production me dise qu'à la fête de l'humanité, je pouvais pas faire de PowerPoint, il y avait pas d'écran, il y avait pas de câble HDMI.
C'est un peu roots.
Et voilà, c'est un peu roots. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent. Voilà.
Le paperboard de Vincent. Voilà. Je vous laisse avec Vincent, mesdames et messieurs.
Merci. Alors, attendez. Oui, effectivement, le paperboard. Donc, je me suis adapté. J'ai mon petit texte. Je fais au mieux, hein. Vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. Je vous propose non pas le PowerPoint cette semaine, mais le... Alors là, attention. Voilà. Ouais. Rock'n'roll. Let's go. Cette semaine, effectivement, un paperboard. Alors sur un sujet voilà un peu particulier, on est dans le village des artistes, voilà, on est à la fête de l'UMA, il y a MC Solar qui vient juste de passer, etc. Je me suis dit, il faut parler d'un sujet culturel évidemment important, essentiel cette semaine, et je vous le donne en mille, on va parler du documentaire d'Inoxtag, évidemment, parce que je pense que vous le savez. Inoxtag a sorti son documentaire il y a quelques heures sur YouTube, et c'était aussi au cinéma. Il a gravi l'Everest, enfin peut-être, hein, je veux pas spoiler la vidéo. Et c'est vrai que j'étais moi-même dans la salle, et sachez, petit easter egg, on entend ma voix dans le documentaire, si vous voulez, à un moment, je qualifie Inoxtag de petit foufou. Voilà, c'est un petit peu la valeur qu'on accorde à mon travail journalistique ces dernières années. Et sachez également que voilà, la version sortie sur YouTube il y a 4 heures à peine cumule plus de 2,4 millions de vues. Donc on est sur un projet démentiel qui a réuni énormément de monde aussi dans les cinémas en exclusivité. Alors, pour autant... Évidemment, Inoxtag au cinéma, c'est un projet qui n'a pas plu à tout le monde. Hein. Je parle d'une catégorie de gens très spéciaux. Voilà, vous les connaissez, vous n'avez pas trop envie de les croiser en soirée, vous expliquer la vie. Je parle évidemment, alors là, vous allez les reconnaître tout de suite, hein, je pense que vous allez voir de qui je parle. Je parle évidemment des cinéphiles. Voilà, sur les réseaux, notamment sur le plus crasseux d'entre eux, je parle évidemment de X. Il y a pas mal de gens qui ont plutôt détesté l'idée de voir une projection ciné pour le documentaire d'Inoxtag, hein, qui, je rappelle, vient à la base de YouTube. Beaucoup estiment qu'il n'a pas sa place là-bas et qu'il devrait sagement rester sur Internet. Alors, moi, j'aime beaucoup Internet et j'aime pas du tout le gatekeeping. Donc, je me suis demandé pourquoi tant de haine et de crainte contre celui que beaucoup surnomme désormais le Kwaku Bebou des montagnes, d'où mon envie ce soir de poser une question assez simple. Voilà, alors attendez. Voilà. Avec son docu, est-ce que Inoxtag va sauver ou couler le cinéma français? Voilà, c'est la question toute simple que j'ai envie de poser aujourd'hui. Un titre pour faciliter aussi le travail des monteurs et des gens qui vont faire la miniature et le titre de la vidéo YouTube. Alors, je comprends que ça bouscule pas mal de monde de voir des youtubeurs court-circuiter un petit peu la norme et le système traditionnel de la production au cinéma. C'est normal, surtout quand c'est un youtubeur aussi suivi qui arrive avec ses gros crampons. Et il faut pas oublier qu'Internet permet aussi de rendre visible, alors ça c'est vraiment important, ça permet de rendre visible des œuvres que personne n'aurait vues sinon dans le système classique. Je veux pour exemple, là j'en ai un, merci Thomas, on le voit pas forcément, mais Thomas m'aide énormément dans cette chronique. Je parle de Wesley Wang, qui est un jeune homme qui a fait juste un court-métrage. Il a été étudiant à Harvard à 19 ans, il a fait un court-métrage sur YouTube, ça a eu des millions de vues, et bah Darren Aronofsky va l'aider à produire l'adaptation au cinéma. Donc comme quoi, Internet, c'est pas mal en vrai, Internet, ça peut quand même être assez cool. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en France, en tout cas, à quel point... le fait pour les youtubeurs d'aller au cinéma, en tout cas de projeter leurs documentaires, leurs séries, leurs vidéos une fois au cinéma, bah c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On l'a vu avec Squeezie au Grand Rex, avec Feu Villebrequin dans une vidéo inédite pareil au Grand Rex, il y a eu les Croûtes au MK2, Seb aussi au MK2. C'est une vraie politique menée par MK2 d'ailleurs depuis maintenant presque 2 ans. Et on assiste en fait à l'émergence. Oh là là, problème technique. J'ai dit aïe aïe aïe, merci. C'est un événement social rare, en fait, ce genre de projection, parce que, en fait, le public entretient un rapport vraiment particulier avec le, avec sa star préférée qui le suit depuis longtemps et attend avec impatience ce genre de contenu. C'est vrai que c'est un degré d'attente et de parasocial que Pierre Niney pourrait pas avoir, même en forçant régulièrement chez McFly et Carlito ou en faisant des vidéos de ses ânes sur TikTok. On peut pas avoir le même niveau de relationnel avec son public. Ça se voit que cette relation sociale très forte, ça a un vrai succès, ça a un vrai impact, puisque il y a déjà eu, il y a eu plus de 200 000 personnes qui sont rendues dans les salles françaises pour voir le documentaire en avant-première. Et c'est vrai que, bah, les salles de cinéma, elles sont à la fois choquées et en même temps ravies de voir autant de monde, autant de jeunes, surtout retourner dans les salles. Et faut s'en réjouir, pour le coup, de voir, surtout en plus pour un documentaire, certes hollywoodien, mais un documentaire sur l'alpinisme, etc. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et ça, faut plutôt le saluer. Et puis voilà, il y a des critiques un petit peu sur l'argent. Sachez que l'argent récolté va pas finir tout simplement entièrement dans les poches d'Inoxtag, hein. C'est aussi de l'argent qui va être redistribué et permettre de financer le cinéma français au sens large. Et puisqu'on parle du CNC, j'en profite pour dire un petit mot aussi sur tout simplement la chronologie des médias, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont interrogés. Oui, il est en salle la veille et sur YouTube le lendemain. Et ben en fait, c'est permis grâce à un visa spécial du CNC, tout simplement, qui autorise ce genre de timing assez unique. On l'a déjà vu aussi avec Nekfeu, avec un documentaire Netflix. Il avait projeté au cinéma quelques mois à peine avant. Et le CNC, en plus, Inoxtag avait essayé de décrocher des financements du CNC avant de renoncer, si j'ai bien compris. Et là, on touche à un point vraiment important qui distingue beaucoup du cinéma classique, c'est le financement. Parce que dans le documentaire, si vous l'avez peut-être déjà vu, les marques sont omniprésentes. Ça se voit même sur l'affiche, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires. Il y a, je cite, Nike, il y a les bouteilles Air Up qui sont très présentes sur YouTube, il y a Deezer, il y a Orange, il y a Fitness Park, il y a Herborian, il y a Termsé qui est une marque de chaussettes, je crois, de montagne. Et là, on est vraiment au-delà des films James Bond avec la Aston Martin, etc. Il y a les produits laitiers, évidemment, où Inoxtag, dans son sac à dos en montagne, emmène 1 kg de Tom de Savoie, je crois, pour le faire manger à des sherpas. C'est un placement de produits pour les produits laitiers, donc qui est un lobby. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier quand on regarde ce genre de production culturelle qui est vraiment de plus en plus émergente, c'est qu'on a affaire dans le documentaire, dans le film, à des vraies, vraies publicités assez longues, assez marquées, et choses qu'on voit pas ou beaucoup moins dans le cinéma classique. Autre chose très important, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, Inoxtag, il a rien à faire au cinéma, etc. » Mais je pense que quand on voit qu'il y a des films comme « Opération Portugal 2 » qui sont diffusés au cinéma, je pense qu'on peut laisser Inoxtag un soir proposer son documentaire. Voilà, c'est juste une petite remarque au passage, parce que bon, je pense que là, il faut un peu doser. Et la seconde chose qu'on pourrait dire, c'est regardez le film, tout simplement, si ça vous intéresse. Faites-vous votre avis. Et moi, je l'ai vu, et mon avis, il est assez compliqué, on va dire, puisque... déjà, il faut juste dire au moins que techniquement, c'est une prouesse qui est assez folle. Le travail des Sherpas, des cadreurs, des personnes qui ont accompagné Inox pendant son voyage est vraiment exceptionnel. Il y a des images dingues qui donnent vraiment le vertige. Donc ça, faut vraiment le saluer et saluer le travail des Sherpas sans qui Inox aurait rien pu faire. En revanche, là où c'est beaucoup plus difficile, c'est sur le fond, c'est sur le discours. Et là, moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué dans le film. C'est... tout simplement le mindset un peu millionnaire d'Inoxtag qui dit en gros croyez en vos rêves, ne lâchez rien, un pas après l'autre, mais vous allez y arriver quel que soit votre projet, etc. Et ça, je pense que c'est un peu un discours qui peut être discutable, surtout quand il faut admettre que même si on veut très fort quelque chose, des fois on peut pas forcément l'atteindre. Ça dépend de ses moyens, ça dépend de ses origines sociales, des opportunités, des contacts qu'on a, ça peut dépendre de plein de choses. Et je trouve que le documentaire manque un peu de ça. Et l'autre gros sujet, c'est l'environnement. L'Everest est ultra pollué par les alpinistes. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en parler beaucoup plus. Et Inox en parle peut-être 1 minute 30 grand maximum dans le documentaire. Et ça, c'est un vrai, vrai problème, à mon sens, dans ce projet. Tout simplement, écoutez, je vois qu'on me dit qu'il faut que je ferme ma gueule. Donc, je vais tout simplement vous remercier. Je vais remercier Thomas qui m'a énormément aidé. Je vais remercier aussi Sherine. Allez la suivre, OverSherine sur Instagram. Elle m'a aidé à faire le design de pas mal de ces pages-là. Merci beaucoup à elle. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que c'était clair et intéressant.
Et voilà, merci
bon
beaucoup.
Festival. À la prochaine.
Merci beaucoup, Vincent, pour ce PowerPoint paperboard. Merci à toi et bravo d'avoir su t'adapter à la technologie de la fête de l'humain.
J'adore le paplard. Ouais. Bon courage.